Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et l'actualité à 7h, c'est avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
L'information de la nuit, c'est ce dramatique accident dans la Drôme.
Un monospace qui a fait une sortie de route après avoir pris feu sur l'autoroute A7. Le bilan est terriblement lourd. 5 enfants tués, un autre entre la vie et la mort et 3 adultes très grièvement brûlés. Récit complet dans un instant. À suivre également l'accord sur le plan de relance européen, bien sûr, vous en parliez, mais aussi l'ombre de François Hollande sur ce nouveau mouvement politique lancé par le journaliste Laurent Geoffrin. Et puis le Ballon d'Or 2020, un Ballon d'Or fantôme. La récompense est annulée cette année après une saison chamboulée par le coronavirus.
RTL Matin.
5 enfants tués, un 6e entre la vie et la mort, c'est de terribles bilans après un accident de la route dans la Drôme.
C'est un grand monospace qui a pris feu sur l'autoroute A7. Le conducteur a vraisemblablement perdu le contrôle. Le véhicule est alors parti en tonneau et s'est embrasé. Les 3 adultes à bord sont grièvement blessés. Le pronostic vital est engagé pour 2 d'entre eux. Sur place pour RTL, Peggy Liaudenot.
Il est 19h quand l'accident se produit à hauteur de la commune d'Albon dans le sens sud-nord sur la 7. Sur les images de vidéosurveillance de l'autoroute, on voit tout d'abord une fumée blanche se dégager du véhicule. Alex Perrin, procureur de Valence.
On voit que ce véhicule, alors qu'il circule, commence à dégager une fumée importante et à prendre feu, qui va même jusqu'à un début d'explosion. Et puis ensuite, manifestement, le chauffeur, qui est le père de famille, en perd le contrôle. Et ce véhicule va partir en tonneau et sortir de la chaussée.
Le bilan est très lourd. 5 enfants morts, âgés entre 3 et 14 ans. Un enfant de 7 ans est entre la vie et la mort. Et 3 adultes sont grièvement blessés. Ils étaient tous de la même famille, originaire de Vénissieux. Les parents et leurs 4 enfants d'un côté, ainsi que la belle-sœur et ses 2 enfants. Ils circulaient à 9 dans un véhicule qui contenait 7 places. Alors les freins ont-ils lâché, comme semblait le dire le conducteur, avant de s'évanouir après les faits? L'enquête commence à peine pour tenter de comprendre ce qui a causé ce tragique accident.
Peggy Liaudenot dans la Drôme pour RTL. Une enquête est ouverte pour tenter d'établir s'il y a eu une défaillance technique ou un défaut d'entretien sur ce véhicule type Renault Grand Scénic. Les ministres des Transports et de l'Intérieur se sont rendus sur place dans la nuit.
L'actualité, c'est Bruxelles également, Isabelle, car enfin un accord a été trouvé sur le plan de relance européen.
Oui, il aura fallu 4 jours et 4 nuits de négociations. Mais ça y est, c'est un jour historique pour l'Europe, a tweeté Emmanuel Macron. Et de fait, ce plan à 750 milliards d'euros est financé pour la première fois par un emprunt commun. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Alors on sait qu'il y avait une franche opposition entre le couple franco-allemand et les pays dits frugaux. Comment a-t-on résolu le problème?
Il aura fallu d'abord 92 heures de négociations acharnées, avec alternance de coups de gueule et de câlinerie pour parvenir à arracher cet accord à l'unanimité des 27. Mais au final, c'est un signal fort de solidarité européenne dont vient de se féliciter Emmanuel Macron.
Au total, avec ce plan de relance, nous arrivons à un quasi doublement du budget européen pour les 3 prochaines années. C'est un changement historique de notre Europe et de notre zone euro.
360 milliards de prêts et 390 milliards de subventions que nous allons rembourser en commun. Et ça, c'est une première. Ça veut dire une Europe plus solidaire et en quelque sorte plus fédérale. Dans cet ensemble, la France va obtenir près de 40 milliards d'euros. En plus de ces subventions, il y aura des possibilités donc de prêts pour arriver à un plan global européen à 750 milliards. En échange, les pays dits frugaux, vous savez, ceux qui ne voulaient pas lâcher trop de subventions pour les pays en difficulté, ces pays ont obtenu des rabais sur leur participation au budget européen. Les Pays-Bas, par exemple, devraient payer 2 milliards de moins par an. Dommage qu'il y ait ces rabais, mais c'est le compromis. Cet accord doit aider à la relance européenne face à la pandémie du Covid qui a fait plus de 200 000 morts sur notre continent et plongé son économie dans une crise sans précédent.
Explication très complète signée Christophe Decroix.
Et sur le front de l'épidémie, Isabelle, ça va mieux apparemment en Mayenne.
Oui, le taux de positivité des tests est en baisse. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé qui s'est rendu sur place hier. Olivier Véran qui précise qu'un reconfinement local n'est pas du tout d'actualité. Alors il y a les tests et il y a les masques. Ce sont les 2 piliers de la stratégie sanitaire du gouvernement. La pénurie de masques est derrière nous. Désormais, on en trouve sans problème, mais ça ne profite pas forcément aux producteurs français. C'est ainsi que Labonal a décidé d'arrêter de produire des masques. Le fabricant alsacien de chaussettes avait modifié son usine spécialement pour pouvoir produire des masques en tissu. Mais faute de commandes, ils se concentrent à nouveau sur les chaussettes, Yannick Collant.
Dans cette usine, il n'y a plus que 3 machines sur 100 qui fabriquent des masques en tissu. Plus assez de demandes. Les entreprises et les collectivités les font plutôt venir de l'étranger, d'où la déception des salariés comme André Gutt, responsable technique de la Bonne.
Bah oui, ça va bien forcément, hein. Vu qu'on a les moyens de faire ici, alors qu'on est prêt à fabriquer et même en avoir en stock un petit peu, ça fait un peu mal de les voir arriver de Chine ou d'ailleurs.
En pleine épidémie, la Bonal avait participé à l'effort collectif en investissant 30 000 euros pour adapter son usine, pour passer des chaussettes aux masques. L'entreprise alsacienne ne rentrera finalement pas dans ses frais. Dominique Malfait, le PDG.
Moi, je n'admets pas qu'on puisse acheter des masques en importation alors qu'on a le savoir-faire en France et pas pour un différentiel de prix. Notre masque, il est lavable 50 fois et on achète des produits d'importation, des produits jetables qu'on voit traîner partout dans la campagne alors qu'on n'a jamais autant parlé de relocalisation, d'environnement. On a le savoir-faire en France et ne l'exploite pas au maximum.
La Bonal qui se tient prêt, malgré tout, en cas de deuxième vague, en 24 heures, l'usine peut rebasculer en production de masques.
Reportage RTL signé Yannick Holland en Alsace. Où s'arrête la conscience professionnelle et où commence l'excès de zèle? C'est la question que devra trancher cet après-midi la commission disciplinaire qui a convoqué un inspecteur du travail de la Marne. Cet homme est suspendu depuis la mi-avril pour avoir engagé une procédure contre une structure d'aide à domicile de Reims, une structure qui selon lui ne protégeait pas assez ses salariés contre le coronavirus. En fait, Christophe Ponzio, deux versions s'opposent.
Oui, celle de l'administration d'abord, pour qui cet inspecteur de la Marne n'a pas respecté les consignes des autorités sanitaires pendant l'épidémie. Selon la Direction Générale du Travail, dont dépendent les inspecteurs, les conditions qu'il imposait aux employeurs pour qu'ils maintiennent leur activité n'étaient pas conformes, comprenait trop de zèle. De plus, l'inspecteur, par ailleurs militant CGT, est intervenu hors de sa zone de compétence géographique. Enfin, sa direction lui reproche d'avoir développé des pratiques internes non professionnelles et non déontologiques, sans plus de précision. Bref, un épais dossier à en croire son autorité de tutelle qui considère que l'agent a méconnu de manière délibérée, grave et répétée ses instructions. A contrario, les syndicats s'insurgent. Pour eux, leur collègue a courageusement osé faire son travail et son devoir en pleine crise sanitaire. Il souligne que ce contrôle a eu lieu alors que des employés à domicile mettaient en danger leur santé et leur sécurité sans protection, que les inspecteurs sont indépendants et que la structure d'aide à domicile contrôlée est un important pourvoyeur d'emploi à Reims. L'avis de la commission disciplinaire qui se réunit aujourd'hui n'est que consultatif, mais en cas de sanction, certains syndicats considèrent déjà que ce serait une déclaration de guerre.
Christophe Ponzio du service économie d'RTL. Le Ségur de la santé suite et fin. Après les revalorisations salariales et les créations d'emplois, le gouvernement doit présenter aujourd'hui une série de mesures sur l'organisation du système de soins. Les syndicats espèrent surtout un moratoire sur les fermetures de lits.
En politique, un nouveau mouvement est en train de naître à gauche et l'ombre de François Hollande plane sur le baptême.
C'est Laurent Geoffrin, l'ancien directeur du journal Libération, qui affirme vouloir refonder une gauche réaliste et réformiste. Objectif 2022. Son appel baptisé « Engagez-vous » a été signé entre autres par Mazarine Pinjot, Benjamin Biolay, Agnès Jaoui ou encore Alain Touraine, des intellectuels et des artistes donc, mais aucun politique pour le moment. Sauf que l'on sait Laurent Geoffrin très proche de François Hollande. Du coup, William Galibert, il passe son temps à jurer qu'il n'agit pas pour le compte de l'ancien président.
Oui, je ne vais pas commencer une carrière de marionnette à 68 ans, répète Laurent Geoffrin, qui assure ne pas agir sur commande. Son seul but, dit-il, simplement faire gagner la gauche en 2022, avec ou sans François Hollande.
Aujourd'hui, il n'est pas en situation, hein, je peux vous le dire. Et demain, qui le sera? Vous ne le savez pas, et moi non plus. En plus, franchement, honnêtement, c'est pas la question. J'ai réuni 140 personnes, je vais pas leur dire on va voter pour Tartampion ou du genou. Ils vont voter pour qui ils voudront.
Mais au sein de la direction du Parti Socialiste, on juge que la manœuvre est bel et bien signée par un François Hollande à la recherche d'un avenir politique. Du côté de l'ancien président, on indique simplement suivre cette démarche avec bienveillance. Critique et raillerie aussi à la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, ironisait sur le faible nombre de signatures recueillies pour l'instant par cet appel de Laurent Geoffrin.
William Galibert. À l'étranger, le Brésil vient de dépasser le cap des 80 000 morts du coronavirus. Aux États-Unis, pour le 7e jour consécutif, on enregistre plus de 60 000 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de malades hospitalisés à Los Angeles atteint un nouveau record. Mais c'est la Floride qui inquiète le plus. Il ne reste que 18% des lits disponibles en réanimation. Le foot, c'est historique. Il n'y aura pas de ballon d'or cette année. Une première depuis la création de cette récompense en 1956. La pandémie a bousculé toutes les compétitions et l'organisateur France Football estime que c'est plus juste ainsi. C'est ce que nous dit le rédacteur en chef Pascal Ferré.
Le Ballon d'Or tire sa crédibilité et sa légitimité depuis plus de 60 ans maintenant sur un fondement assez simple qui est l'équité. C'est-à-dire que tous les joueurs sont jugés et jaugés à partir des mêmes critères. Or, là, on allait être amené à jauger et juger des joueurs, mais également des joueuses, sur des morceaux de saison disputés parfois jusqu'au bout, parfois pas jusqu'au bout. Et puis surtout, on allait se trouver devant un cas de conscience, c'est-à-dire que la Ligue des champions de cet été, ben, ça n'a plus rien à voir avec celle qui a débuté en cours de saison. En sachant qu'à cette compétition estivale, il y a des équipes qui vont arriver avec une dizaine de matchs officiels dans les jambes, d'autres avec un match, d'autres avec deux matchs. Donc, c'était plus tout à fait équitable.
Pascal Ferré de France Football, joint pour RTL par Isabelle Langer. C'est dommage ce Ballon d'Or annulé cette année parce qu'il y a un Français quand même qui avait de bonnes chances. C'est Karim Benzema. Karim Benzema qui vient de remporter la Liga avec Zidane, le dernier Ballon d'Or français.
Les chevaux, les courses, c'est Vichy ce mardi.
Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 9, le 2, le 8, le 12, le 7 et le 4. As, 6, 9, 2, 8, 12, 7, 4. La dernière minute de Dominique, c'est le 9, Moko.
À Vichy donc, bonne chance à tous ceux qui tentent l'affaire aujourd'hui. Merci Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h pour le journal RTL.fr. L'actualité, vous cliquez 24h sur 24.
RTL. Un été en France.
Un été en France.
À 7h11, une nouvelle étape de notre tour du pays. Dans l'heure, ce mardi à Pont-Audemer, où la mairie propose depuis le déconfinement aux habitants, mais aussi aux touristes, de découvrir les lieux de manière ludique, en autorisant pour la première fois l'accès aux cours d'eau qui sillonnent la commune. Bonjour Frédéric Veil.
Bonjour.
Frédéric, ce parcours se fait en canoë-kayak en un peu plus d'une heure, l'occasion d'avoir un regard inédit sur le patrimoine de la ville.
Exactement, c'est en pagayant que l'office de tourisme propose de découvrir l'arrière des demeures bourgeoises, mais aussi les anciens séchoirs des tanneries et les maisons à pans de bois des 15e et 16e siècles qui bordent ces canaux, enjambés par des petits ponts de pierre. Cette visite, c'est Vanessa, Ludo et leurs trois enfants, Matteo, Lola et Luca, qui vont la faire.
Ah, c'est bien, vous les gilets comme ça.
Cette famille de touristes a été conquise par le concept.
Oui, parce qu'en fait, du coup, on visite toute la ville.
Oui, c'est ce qu'on a vu, oui.
C'est vrai que ça va être super sympa.
Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de canoë, c'est bien. C'est tout doux, il n'y a pas trop de rapide, donc ça va être intéressant.
On a bonne balade.
Merci.
Merci bien.
Après une brève prise en main des canoës.
On fait un petit récap avant de partir ou c'est bon?
C'est parti pour 1h30 de balade.
C'est bon?
C'est bon.
Nathalie Delaney est la directrice de l'office de tourisme de Pont-Audemer, la petite Venise normande.
C'est le surnom effectivement qui est donné à Pont-Audemer, la Venise normande. Pont-Audemer était une ville de tanneurs et les tanneurs circulaient sur les canaux avec des barques à fond plat. Ils transportaient les cuirs et on retrouve un petit peu cette ambiance et ça permet de voir que Pont-Audemer est une ville construite un peu sur l'eau, quoi.
Alors, pas de gondole et de gondolier, mais un canoë et des bras pour ce parcours en centre-ville qui se termine sur les bords de la Rille. Fin de parcours pour Matteo et son père, arrivés les premiers.
Hop, voilà.
Ouais, je suis pas tombée.
Parfait. Tu peux monter les paquets, s'il te plaît?
C'était trop cool, surtout au niveau des rapides et des ponts où on devait se plier en quatre pour pouvoir passer. Et sinon, c'était très bien.
C'est aussi l'avis de Luca et Lola, arrivés juste derrière.
Bah oui, c'était bien. Ça fait un peu vacances, on va dire, ça change. Parce que, au lieu de passer sur la route, on passe plutôt sur l'eau, donc ça change, on va dire.
Quant à Vanessa, la maman, elle est bonne dernière, mais elle a une excuse.
C'est assez trop vite. Le bateau-là était coincé à travers, donc je suis descendue du canoë. Mais il y avait plein d'orties, donc je me suis pris toutes les orties. Mais sinon, non, super. Vraiment une très très belle promenade, hein, c'est agréable. Ah oui, on traverse, on a des maisons en colombage, on a l'impression d'être ailleurs. Oh, puis l'eau est bonne, hein ? Parce qu'au final, moi je suis mouillée de chez mouillée, mais ça fait du bien parce qu'il fait chaud, alors... Non, c'est très 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 bien. Non. Super balade.
Voilà, on s'est régalé. Frédéric Veil pour une balade originale dans l'heure à Pont-Audemer. Un été en France.